Mon exposé se situe en fait au croisement de deux lectures. D'une part, la lecture du livre d'Alexandre Geffen, « Réparer le monde », un best-seller dans son genre, et d'autre part, une seconde campagne de lecture immersive dans un corpus de romans français à grand tirage, après une première qui avait été consacrée principalement à Marc Lévy et Guillaume Musso. Cette fois, j'ai fréquenté Oresco Referens, Grégoire Delacour, Anna Gavalda, Catherine Pancol, Gilles Le Gardinier, Agnès Lédig, Françoise Bourdin, Agnès Martin-Lugan, avec une excursion du côté de Laurent Gounel et de Raphaël Giordano. C'est un croisement, suite Geffen, du livre de Geffen et de ce corpus, c'est un croisement dont les conclusions me laissent perplexe, tant il semble y avoir convergence entre une nouvelle doxa qui s'imposerait, au dire d'Alexandre Geffen, à la littérature française la plus légitime, ou qui serait imposée par elle, d'une part, et d'autre part, la part la plus ouvertement marchande de la production romanesque contemporaine. Faut-il penser que Mathieu Riboulet et Agnès Lédig mènent le même combat sous la bannière du « care » Et si tel est le cas, à qui cela profite-t-il? On est tenté évidemment de répondre au néolibéralisme mondialisé, et on est tenté de faire en contrepartie de la littérature digne de ce nom une zone à défendre. Négativité contre positivité, autonomie contre hétéronomie, régime esthétique contre médiation sociale, pourquoi ne pas conclure, en effet, comme Alexandre Geffen, qu'un épisode de l'histoire littéraire se referme et que désormais, je le cite, les expérimentations stylistiques et formelles de l'ancienne littérature de rupture peuvent être mises au service d'une écriture de la réconciliation et du lien. Il me semble que c'est allé un peu vite. Je me demande d'abord ce qui se referme. Est-ce que c'est la fin d'une guerre de 200 ans? Ou bien est-ce que c'est la fin d'une parenthèse plus brève, où l'idée de l'autonomie de l'œuvre a été la réponse du milieu littéraire à l'apparition d'une culture élargie, puis d'une culture de masse, et de la littérature industrielle qui en est une des composantes? Ou encore, est-ce que c'est, si l'on en croit Philippe Roth d'un côté, Richard Millet de l'autre, la disparition de la littérature elle-même qui s'annonce? Jouer les Cassandres, c'est un rôle littéraire, tragique ou romanesque, qui convient à un écrivain en fin de vie ou de carrière. Mais Cassandre était jeune dans un monde qui s'effondrait. Demandons-nous aussi, j'aimerais me demander aussi, ce qu'il s'agit de renouer et s'il s'agit bien de renouer. La littérature a toujours été socialisée, et jamais mieux que lorsqu'elle revendiquait sa pleine autonomie. Elle a toujours entretenu des rapports ambigus avec l'opinion commune qui se nourrit d'elle et l'absorbe en l'obligeant à se transformer. C'est pourquoi, en gardant cette convergence en tête, je voudrais essayer de desserrer un peu l'étau de ces oppositions. Alors, j'ai bien conscience moi-même d'être l'héritier et le représentant d'une idée élitiste de la littérature. Je crois mesurer ce qui est en jeu lorsque je formule un jugement de valeur. Ce jugement ne m'en semble pas moins nécessaire. Je dirais que pour un universitaire, formuler des jugements de valeur, c'est un devoir d'État, à condition, évidemment, que ce jugement soit assumé et explicité. Pierre Jourde, à la fois collègue et écrivain, a raison de contester l'argument dit du respect des lecteurs. Dire du mal d'un écrivain populaire n'implique pas de mépris pour les gens qui le lisent. Et il est vrai que, tel qu'il est brandi par certains journalistes, cet argument est un étouffoir de la critique. Mais, c'est un sujet scabreux. On peut trouver que le ton de Pierre Jourde est une raillerie assez condescendante. Si j'étais lecteur, ou plus encore lectrice, d'Anna Gavalda, je me sentirais concerné. Personnellement, je m'autoriserais plutôt du fait que les lecteurs ordinaires, dans les espaces où ils s'expriment, peuvent avoir la dent dure, bien que l'emploi des mêmes critères les conduise souvent à des appréciations diamétralement opposées. Donc mon point de départ était antérieure à la lecture du livre de Geffen. C'était le constat que je faisais au terme de l'introduction qu'on a rédigée ensemble avec Marie-Ève et Adeline Vrona du numéro de fiction sur le best-seller. J'ai écrit un paragraphe là. Bon. Je le formulerai ainsi. Constatant que le best-seller, c'est ce que les gens lisent, je me demandais ce qu'ils y trouvent. Une observation sommaire des usages, jointe à mes propres lectures, a fait apparaître pour moi des points de convergence que je résumerai par trois formules. La résilience, le développement personnel, la projection empathique. La résilience, c'est à la fois une dominante éthique et une matrice narrative. J'insiste sur ce couplage. Matrice narrative, celle de l'échec, alors de la maladie, du deuil, de la pauvreté, du handicap, etc., de l'échec dans lequel vont se découvrir les sources paradoxales du succès, l'intrigue étant bâtie pour mener de l'un à l'autre. Le développement personnel constitue à la fois le cadre d'usage et la finalité propre de ces lectures, leur utilité individuelle et sociale à l'opposé du vice impuni, gratuit et antisocial que célébrait Valérie Larbaud. La projection empathique, enfin, est le vecteur communicationnel principal via l'investissement des personnages. Le ressort de la lecture est une transmission des affects, dans laquelle la croyance à l'univers romanesque joue, la croyance ou l'adhésion, plutôt, parce que croyance peut-être trop religieuse, l'adhésion à l'univers romanesque joue un rôle décisif. Les best-sellers peuvent être à cet égard joueurs, et souvent ils le sont, mais ils ne peuvent pas être sceptiques. Cependant, ça ne suffit pas complètement à expliquer le recours au roman plutôt qu'à un manuel de vie pratique, c'est un point sur lequel je reviendrai. Ce que le roman y ajoute est évidemment une dimension proprement fictionnelle, qui prend la forme de l'idéalisation optimisante, et parfois, assez souvent même, le visage du fantastique faisant irruption ou se glissant dans le déroulement d'une vie quotidienne décrite de façon réaliste. Ces histoires, qui sont censées nous faire du bien, sont pleines de résurrections symboliques, de miracles et de revenants bienveillants. Elles conservent le tragique de la vie, mais magiquement, elles le compensent ou le réparent. C'est le pouvoir de la fiction. Il en va ainsi avec une particulière netteté dans des livres qui ont fait la fortune de leur auteur, comme « Et si c'était vrai ?», le premier succès de Marc Lévy. Ce qui doit nous frapper, c'est la dimension ou la prétention utilitariste de ce qui pourrait être des objets de pur divertissement. Les gens, et je fais exprès usage de ce terme mélenchonien, les gens, dira-t-on, veulent en avoir pour leur argent. Ils veulent des livres qui leur fassent du bien. Les feel-good books, qui forment un genre particulier au sein de la littérature de grande consommation, définissent aussi un programme d'ensemble, une fonction socialement assignée à l'objet livre. Ou pour être plus précis, on pourrait soutenir que la littérature de genre, et en particulier la fantasy, satisfait aux besoins propres du divertissement, en nous détournant du monde tel qu'il est, au profit d'univers alternatifs, plus hauts en couleurs, plus excitants. Dans ces livres, l'immersion fictionnelle est requise, de même que les prothèses oculaires et les effets techniques sont maintenant une composante indispensable des films dits d'action. La projection empathique dans ce domaine conserve tous ses droits, d'autant que, bien souvent, les super-pouvoirs habillent une humanité fragile. Nous avons tous des exemples en tête de cela. Mais l'effet d'étrangement demeure, et comme dans le mythe, il empêche que prennent forme des homologies hâtives avec la situation personnelle du lecteur. Dans la littérature de genre, il est très difficile de bâtir immédiatement des homologies avec sa vie propre. Il en va autrement dans les livres que j'envisage ici. Leur action se situe dans un monde vraisemblable, comparable au nôtre, souvent ordinaire, le monde du roman réaliste, et les personnages ne sont pas des êtres d'exception. Leur histoire pourrait être la nôtre. Dès lors, en quoi peut-elle nous intéresser? À quoi bon même la raconter? L'argument traditionnel du roman réaliste, depuis Balzac, je dis ça pour simplifier, est une prime d'ordre cognitif. Le roman nous offre de comprendre le fonctionnement du monde social, les lois de l'hérédité, les intermittences du cœur. Je considère que l'argument esthétique, celui de la valeur en soi de l'œuvre d'art, est une légitimation d'un autre ordre et d'importance secondaire, réduit à lui-même, l'art pour l'art, c'est un, je pense que le malarméen qui est ici n'en disconviendra pas, réduit à lui-même, l'art pour l'art ne mène pas plus loin que le Parnasse. Il n'est pas sûr que cette promesse cognitive, celle du roman réaliste, forcément encyclopédique, puisqu'il s'agit de rendre compte d'un monde, soit soutenable dans l'état actuel du savoir, sauf à prendre un sujet vraiment local, comme Maïlis de Kerangal dans « Réparer les vivants ». Je mets des guillemets à « local ». Quoi qu'il en soit, cette offre cognitive est absente des livres où je me suis plongé. Ce qui est vendu avec ces livres, leur plus produit, c'est une amélioration de soi. Un être mieux dans toute la gamme, amélioration de l'humeur, le « feel good » au sens propre du terme, prise de conscience au moins partielle, programme de vie concrète, guérison morale, jusqu'au perfectionnement de soi. Lisez, ça vous fera du bien, non en vous transportant, mais en vous ramenant à votre condition. Voilà les éléments de langage qui accompagnent la sortie du livre. C'est une légitimation plus accessible pour le lecteur, plus facile à tenir pour l'auteur aussi que la promesse du beau. La littérature, et là je suis sur le terrain d'Alexandre, contribue ainsi à édifier une société de consolation, une société de consolation. Elle en oblitère par euphémisation la violence structurelle, elle facilite notre consentement à l'ordre des choses. De consolation à consommation, l'écart n'est que d'une paronomase. Je pourrais facilement développer ce thème en expliquant le lien consubstantiel entre néolibéralisme et éthique du développement personnel. Je pourrais soutenir que cette littérature est une version adaptée à notre monde laïcisé de l'opium du peuple. Mais j'en laisse le soin à l'extrême gauche élitiste qui ne manque pas de représentants. En apparence, peu de choses différencient ce programme du vieil adage d'Horace que j'avais mis dans mon titre initial. Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, lectorem delectando pariterque monemdo, pardon aux hexamètres que je massacre dans ma diction latine. Je traduis, il gagne à tous les coups celui qui a mêlé l'utile à l'agréable et qui sait charmer le lecteur en même temps qu'il lui fait la leçon. Ce qui sépare ces deux programmes n'est pas la valeur esthétique. D'un côté comme de l'autre, il n'est question que de faire plaisir. Ce qui les sépare, c'est l'idée que l'auteur puisse être le représentant d'une norme morale transcendante à l'individu, norme sociale ou religieuse, et que le texte puisse, pour avoir fonction d'actualiser cette norme, car il n'est pas question de l'inventer. Monere, en latin, signifie à la fois avertir, c'est une action préventive, et rappeler à l'ordre, admonester une fois la chose faite. C'est une méthode d'éducation en même temps que de gouvernement. Elle repose sur le principe de l'exemplification et le genre de la fable, nous le savons, en est une application directe, pédagogique. Mais, alors, je dirais presque des guillemets moraux ici, dans les sociétés régies par l'individualisme contemporain, il n'y a plus d'induction du particulier au général, plus d'exemplification, du moins celle-ci est devenue difficile. Chacun est prié de faire ce travail lui-même. Il n'est tenu compte que des résultats qui départagent les vainqueurs et les vaincus. L'imposition de normes prend donc la forme d'une adhésion personnelle et c'est pour cette raison-là qu'elle va passer aisément par des rapports d'homologie de situation à situation. Et c'est bien pour ça que l'empathie est un ressort fondamental. L'exemple s'impose à nous. L'identification dans le roman, la projection empathique dans le roman, cela s'insinue davantage. Évidemment, l'un n'est pas moins bien pensant que l'autre. Il arrive d'ailleurs, ce sera le premier point où j'entrerai un peu dans le détail, il arrive d'ailleurs que les deux se rejoignent. On a vu fleurir, de façon assez récente, des manuels de développement personnel ou de thérapie psychique sommairement habillés d'une fiction dans la lignée de L'alchimiste de Paulo Coelho, un texte paru en traduction française en 1994, un texte qui a donc 25 ans. Laurent Gounel s'en est fait une spécialité. Et oui, j'ai lu Laurent Gounel. De l'homme qui voulait être heureux à l'homme qui voulait être heureux à et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Laurent Gounel est concurrencé depuis peu par Raphaël Giordano, dont le livre intitulé Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une a été un des livres les mieux vendus de l'an dernier. Ces livres ont pour point commun que leurs titres les résument de façon complète, parce qu'ils formulent de manière explicite ce que les marketeurs appellent la promesse produit. C'est un trait du sous-genre qui l'oppose aux fictions de divertissement dont les titres sont souvent allusifs, par exemple « La première chose qu'on regarde » de Grégoire Delacour, ou « Énigmatique », hein, à la manière des titres teaser dont Catherine Pancol s'est fait une spécialité, titre comme « Les yeux jaunes des crocodiles ». Allez savoir de quoi ça parle. Son dernier roman, donc « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi », son dernier roman, après avoir réduit le bouddhisme et le taoïsme à leurs principes, découvre dans l'évangile de Thomas, un évangile apocryphe rejeté par l'Église hors des textes canoniques, un Christ adepte de l'immanence, un Christ coach du développement personnel. Jésus, je cite Gounel, y invitait à l'introspection, à la connaissance de soi et insistait pour dire que Dieu était à l'intérieur de soi. Notons au passage que l'évangile de Thomas avait servi à Dan Brown pour Da Vinci Code. La fiction spiritualiste fait bon ménage avec la théorie du complot. Chez Raphaël Giordano, il s'agit plutôt de coaching personnel. Elle-même, Raphaël Giordano, a créé une entreprise de communication où elle pratique ce qu'elle appelle le team building par l'art. Elle a publié une dizaine de manuels pratiques avant d'en venir au roman. Elle publie chez Erol, hein, qui est un éditeur qui n'a rien de pas du tout un éditeur littéraire. Nous touchons ici à une des limites, non du champ littéraire, hein, ce n'est pas du tout une limite du champ littéraire, c'est une limite de la fiction de divertissement. Donc on est à une limite, mais en même temps, on est aussi au plus près de l'idée d'une littérature thérapeutique, celle que Alexandre Geffen présente comme le paradigme du contemporain. Ce sont les fables du monde d'aujourd'hui. Les lecteurs de Laurent Gounel et de Raphaël Giordano sont en gros, hein, bien sûr, les mêmes que ceux de Grégoire Delacour ou Catherine Pancol, comme le montrent les nombreuses comparaisons que ces lecteurs effectuent entre les deux genres. Les attentes de ces lecteurs varient. Parfois, elles se situent plutôt du côté de la fiction comme monde possible, d'où des appréciations du type « ça n'est pas un vrai roman ». Parfois, au contraire, les lecteurs, les mêmes ou d'autres, disent que le livre leur a fait du bien. C'est ce qu'ils promettaient. Ces lecteurs sont des clients satisfaits qui achèteront le prochain livre, d'autant que l'auteur aura fait le service après-vente. On connaît la différence entre un coach et un maître. C'est à peu près la différence entre l'exemple et, au sens fort du terme, la voix d'un côté et le conseil de l'autre. Le maître dit « Entende qui a des oreilles ». Le coach dit « Tu feras ça et ça ». Le maître dit encore, de façon variable selon son style, « Les premiers seront les derniers » et « Heureux les pauvres en esprit ». Le coach promet « Tu seras le meilleur » et dans tous les cas, tu tireras le meilleur de toi-même. Le coach joue le rôle d'une prothèse personnelle pour la remédiation ou le perfectionnement. C'est une médiation entre soi et soi. Indépendamment de leur habillage fictionnel, les livres de spiritualité vulgaire, comme ceux de Coelho ou de Laurent Gounel, sont beaucoup plus choquants pour un vieil esprit chagrin que les manuels d'autothérapie. Le curé en soutane de « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi » de Laurent Gounel est confronté à la désaffection de sa clientèle. Mais les conseils d'une jeune experte en marketing vont lui permettre de renouveler son fonds de commerce en important Lao Tzu et l'évangile de Thomas, d'améliorer ses méthodes en événementialisant ses cérémonies. Il va être bien sûr sanctionné par sa hiérarchie qui n'a rien compris à l'évolution des temps, mais au bout du livre, il sera devenu un curé performant, il pourra se mettre à son compte. L'auteur conclut, je cite, « Si le développement personnel manquait parfois de profondeur spirituelle, la spiritualité manquait d'outils psychologiques pour permettre aux gens d'en tirer profit dans leur vie. » Nous avons bien lu « tirer profit ». Face à de telles prétentions, le routinologue de Raphaël Giordano, c'est sa principale invention, cette figure du routinologue, le routinologue de Raphaël Giordano fait figure d'honnête praticien. Pourtant, son enseignement, dispensé avec une assurance sans faille, a de quoi faire réfléchir. Cet homme nous apprend que, je cite, « la capacité au bonheur se travaille, se muscle jour après jour. Il suffit de revoir son système de valeurs, de rééduquer le regard que l'on porte sur la vie et les événements. » Certes, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Réponse, je cite encore, « faire ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur. » Il n'est pas indifférent que ce soit à une femme que ces propos s'adressent. D'ailleurs, on le devine, la liberté est l'affaire des hommes. Je rappelle, c'est une femme qui a écrit le livre, donc ce n'est pas si simple que ça. On devine que la liberté est l'affaire des hommes et que le bonheur est plutôt la quête des femmes. Alors, évidemment, bon, moi, je ne dirais pas que la routine soit sans effet sur notre vie, en particulier sur la vie de couple. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir, avec l'habitude, des rapports de Proust. Mais enfin, c'est quand même des rapports très, très pathologiques, ce Proust. Et peut-être que ce n'est pas non plus un souhait, un truc à se souhaiter. Dans un livre de ce type, bon, et je dirais dans tous les livres de ce type, au fond, il y a toujours des choses à prendre, des idées à essayer, peut-être même une amélioration à escompter, pourquoi pas. Mais cela reste un carpe diem sans fondement philosophique et dont l'utilité n'est pas avérée. Malgré tout, je ne crois pas qu'il faille se moquer des bonnes intentions dans cette espèce d'enfer littéraire et pavé. Les lecteurs savent bien que les processus psychiques ne se manient pas comme des ingrédients de pizza. Ils sont capables de faire la part des choses. Enfin, bon, au moins, il faut le souhaiter, car la représentation de la thérapie que nous donnent ces livres présuppose une transparence absolue de la vie psychique et une efficacité quasi mécanique des remédiations. Dans « On regrettera plus tard » d'Agnès Ledig, une des dernières venues sur les listes des auteurs de best-sellers, avec Agnès Martin-Lugan, avec qui il partage un certain nombre de points communs, dans « On regrettera plus tard », l'héroïne est aux prises avec un blocage qui lui rend impossible tout engagement amoureux. La personne qu'elle consulte, après quelques considérations sur, je cite, « ce mental qui a pris les rênes dans notre petite enfance », cette personne la met sans attendre, l'héroïne, en mesure de remonter à la source, à savoir l'histoire des traumatismes subis par sa grand-mère pendant la guerre. Cette histoire de la grand-mère nous a été racontée en parallèle dans le roman, sans que le rapport avec le personnage principal soit révélé. Pour le lecteur, alors tout s'explique. Pour l'héroïne, je cite, « instantanément submergée par une vague immense, tout se résout. » Cette espèce d'ingénuité peut se comprendre de deux manières, je crois. La première est de la considérer comme justifiée par une magie propre au genre romanesque, dont Thomas Pavel a montré qu'il répondait à un besoin d'idéal. Au fond, on n'est pas si loin du conte ou de ce monde des rêves dans lequel, disait André Breton, la facilité de tout est inappréciable, merveilleuse formule. Il est vraisemblable que la croyance de l'auteur ou son vœu aille dans ce sens. Chez ces auteurs, je crois, le cynisme est à peu près absent, d'autant que l'efficacité théorique de ce genre de récit est bien plus grande pour celui qui l'invente et le rédige que pour celui qui l'entend. Agnès Ledig, l'auteur dont je parlais, s'est mise à écrire après la perte d'un enfant, comme Philippe Forest, mais sans faire comme lui de ce deuil le sujet de ses livres. Il est absolument certain que dans son cas, l'écriture a été réparatrice. Et ce n'est certes pas elle qui, comme Philippe Forès, poursuivrait de sa vindicte le discours sur la résilience. Moi, je pense qu'elle y croit et qu'une part de cette croyance peut se transmettre à des lecteurs bien disposés. Bon, ça, c'est la première explication. L'autre explication commence par constater que les romans disent la même chose que les manuels de vie pratique. À leur manière, ils les vérifient. Ou plutôt, car il ne s'agit pas de protocole d'expérience, ils confirment la promesse d'efficacité et de rapidité sans cesse réitérée par les promoteurs de ces thérapies dites ouvertes, promoteurs qui sont aussi de violents contempteurs de la psychanalyse, il faut le rappeler. Les promesses commerciales, comme les promesses électorales, n'engagent que ceux qui les prennent au sérieux. Une personne en souffrance psychique peut aller d'une promesse à une autre en espérant toujours que cette fois ça va marcher. Il en va de même pour les produits de beauté, et particulièrement pour les produits anti-âge. Il faudrait avoir lu Attali. Raisonner ainsi, c'est considérer à un niveau forcément plus global les feel-good books comme une scénarisation de discours marchands et les inscrire dans cette zone grise de la fiction commerciale où se côtoient storytelling et clips publicitaires. Ces livres sont baignés dans notre monde, un monde dont il est impossible de s'exempter. Il n'y a donc pas d'autre ressource que de faire fond sur la bonne foi des lecteurs. Cette bonne foi peut les abuser, mais c'est elle aussi qui les rend capables de réactions critiques. Alors, qu'est-ce qui distingue, là j'ai parlé jusqu'ici de manuel scénarisé, qu'est-ce qui distingue un roman d'un manuel scénarisé? Eh bien, la réponse, nous la connaissons, c'est la possibilité que la narration conduise, comme dans le modèle de Prope, d'un état perturbé à un état stabilisé par le moyen d'une suite d'épreuves. La plupart des romans mettent en œuvre ce schéma assez simple et on peut distinguer sans peine deux types récurrents. Le premier met en fiction le processus de résilience, passant d'un état de vie perturbé allant du trouble existentiel à la dépression ou à la mélancolie à un état de vie amélioré, tourné au bien, socialisé, dans certains cas heureux. Le déclencheur du changement est, dans la plupart des cas, une rencontre. C'est la rencontre qui prend en charge le romanesque. Voilà un inconnu qui frappe à votre porte une nuit d'orage. Agnès Lédic, je signale que cette scène initiale est le retournement, l'inversion de la scène initiale de l'œuvre de Zola. C'est intéressant. On n'avait pas pensé à ça. Mais je ne pense pas qu'Agnès Lédic ait lu Zola. C'est un mystérieux voisin qui emménage. Ça, c'est pour Gilles Le Gardinier. Demain, j'arrête. C'est un sombre Irlandais qui est le fils des propriétaires du cottage où l'héroïne, écrasée par un deuil, s'est réfugiée. Ça, c'est Agnès Martin-Dugan. Les gens heureux lisent et boivent du café. Le véritable sujet, évidemment, est le cheminement psychique de l'héroïne. Alors, les cas que j'ai lus, c'est plutôt des héroïnes, hein, mais c'est pas. Je pense qu'il y a aussi des héros, des hommes. Le cheminement psychique de l'héroïne qui finit par accepter ce que la vie lui offre et qu'elle refusait. À la fin de l'histoire, le secret du personnage est levé. On comprend pourquoi lui-même se détournait, se cachait ou poursuivait un but mystérieux. Ce sont presque toujours des histoires de famille, un héritage à solder. Et j'ajouterais, il n'y a même pas forcément besoin d'une rencontre. Prenons « Face à la mer » de Françoise Bourdin. Alors Françoise Bourdin, c'est une dame qui vend... décrit, je cite, « des histoires qui nous ressemblent », une quarantaine de romans vendus globalement à plus de 8 millions d'exemplaires. C'est une dame qui vend 400 à 500 000 exemplaires sans publicité, qui a un vrai lectorat, et qui est un coureur de fond dans la catégorie, qui représente aussi une forme plus traditionnelle de récit. Donc, dans « Face à la mer », la mer M.E.R. de Françoise Bourdin, le protagoniste fait ce qui ressemble à un « burn-out », il rompt ses liens sociaux et amoureux, il s'enferme dans une maison délabrée, une villa avec vue imprenable dans le quartier de Sainte-Adresse, c'est-à-dire la banlieue huppée du Havre. Et ce qui va le sauver, outre une querelle d'héritage où il fait valoir ses droits contre un individu brutal et stupide, mais sans doute éprouvé dans son enfance, c'est une confrontation avec sa propre mère, une mère dont il découvre, donc face à la mère, qu'elle n'a jamais voulu de lui. Le voilà en voie de guérison, réinvesti dans sa vie. Il ne lui reste plus qu'à renouer avec la femme qu'il aime et à qui il avait, par désespoir, rendu sa liberté. Ce sont des histoires simples, où l'on va de l'ombre à la lumière. Elle ne nécessite aucune espèce de choix, j'insiste sur ce point, mais simplement l'adaptation à une chaîne d'événements dans laquelle on est embarqué et l'élucidation progressive du rôle qu'on est susceptible de jouer dans ce processus. Au bout de l'histoire, vous n'avez pas changé de vie, d'ailleurs, comme dit Raphaël Giordano, vous n'en avez qu'une, mais vous avez changé votre vie. D'autres romans se présentent sous la forme du choix et mettent en scène au moins la possibilité d'un conflit moral. Un changement de vie vous est offert par le hasard. Faut-il l'accepter ? C'est le sujet de « La liste de mes envies » de Grégoire Delacour, dont l'héroïne, mercière à Arras, prend un billet de loto pour complaire à des amis, gagne le gros lot, au moment même où elle est en train de se reconstruire à mi-vie, à la fois dans son travail, dans son couple et dans ses réseaux de sociabilité. Avertie par la psychologue de service que, je cite, « la convoitise brûle tout sur son passage », elle temporise, elle dissimule le chèque au fond d'une chaussure dans un placard, elle ajuste ses rêves à cette possibilité infinie, jusqu'à ce qu'évidemment son mari découvre le chèque, le vol s'enfuit, se détruise, gâchant par contre-coup la vie qu'elle s'était faite. La mise en fiction de ce personnage moyen, banalement sympathique, est, me semble-t-il, assez convaincante. Bon, l'argent ne fait pas le bonheur, on s'en doutait. Du moins lorsqu'il s'offre comme un moyen magique d'accès à la consommation, c'est exactement la bourse aux trois deniers du compte. Hors de toute perspective fonctionnelle. La somme représentée par le gros lot serait une somme assez moyenne dans une levée de fonds, mais il n'est absolument pas question de l'investir. La Française des Jeux doit rester ce qu'elle est, un marchand de rêves. Les rêves doivent rester des rêves, comme dans l'éducation sentimentale. C'est ce que nous avons eu de meilleur. Chacun a tout à gagner à rester à sa place. Ça, c'est une version. Dans une autre version, dans la crise de couple, il y a bien une alternative, rester ou partir. Il ne s'agit évidemment plus d'adultère, comme dans le roman bourgeois de Madame Bovary à Anna Karénine. L'adultère est déjà au second plan chez Proust, il est devenu parodique dans les romans de Gilles. Il disparaît avec l'indissolubilité du mariage et il jette ses derniers feux dans des films des années 60 comme La peau douce ou La femme infidèle. L'adultère a fait place au divorce. Ces livres, même les plus récents, sont d'ailleurs conservateurs sur le plan des mœurs. Les homosexuels y jouent le rôle convenu de meilleurs amis des femmes, par exemple dans « Les gens heureux lisent et boivent du café », et les protagonistes sont des hétérosexuels rarement effleurés par le doute. Partir ou rester, voilà la question. Mais on peut aussi faire un aller-retour. C'est le cas d'Emma, sans Bovary, l'héroïne mère de famille du dernier Grégoire Delacour, danser au bord de l'abîme. Donc Emma cède au vertige du désir. Elle se trouve sous la pression du choix, mais Félix, événement heureux, en un sens, un accident de vélo en libre service tue l'objet aimé et la projette dans le vide. Ça, je suis parlé d'aller-retour, cette projection dans le vide, c'est l'aller. Heureusement, son mari est atteint d'un cancer et elle va combattre avec lui, c'est le retour. En fin de compte, elle n'a pas eu à choisir. En revanche, les personnages d'un roman plus ancien, je ne sais pas si c'est pour cela, d'Anna Gavalda, « Je l'aimais », ont fait un choix. Le livre plaide pour la rupture, en un sens, il est, à mon sens, moins conformiste que ceux de Delacour. L'héroïne est quittée par son mari, sa vie s'effondre, mais elle voit se rapprocher d'elle son taciturne beau-père qui joue le rôle du visiteur lourd de secret. Il lui tient compagnie dans une maison isolée, il se rapproche et l'homme finit par lui raconter son histoire. Lui, autrefois, était dans la même situation, mais il est resté. Il a tourné le dos à la femme de sa vie et il s'est desséché, il a pris congé de lui-même. Pour elle, au contraire, lui montre-t-il, une nouvelle vie commence où elle pourra s'appartenir. On peut y voir un discours de consolation aux femmes délaissées. Je rappelle que Gavalda est l'auteur de « La consolante ». Il reste que la question du choix et de la responsabilité est bien ouvertement posée et que dans la vie réelle, cette question n'est jamais facile à résoudre. Ces livres parviennent à être bien pensants sans transmettre une morale normative, puisqu'ils ont tous accepté les principes d'une éthique individualiste. Être soi-même, be yourself, comme je dis avec un accent français que je souligne, be yourself, c'est maintenant la loi et les prophètes. le seul commandement encore debout. Cependant, ce qui me frappe le plus à leur lecture, c'est la disparition complète de toute forme d'ambiguïté morale. En sortant de ces livres, je me précipite vers Baudelaire pour relire Le mauvais vitrier et Assommons les pauvres. Et je me demande, que sont devenus la sottise, l'erreur, le péché, la lésine? Où est la jouissance qui réside dans la certitude de faire le mal? Où a disparu le démon de la perversité? C'est sans doute pour ça que je trouve ces livres, une fois dissipé le plaisir superficiel que certains dispensent, si ennuyeux. Ils nous justifient à bon marché. Il n'y a plus de vrais méchants, seulement des grotesques, des escrocs vulgaires et des psychopathes. Tous les amis, et c'est un des signes indubitables à mon avis de cet aplatissement moral, tous les amis ont un cœur d'or. Le collègue instituteur de « On regrettera plus tard », Agnès Ledig, le garagiste de « La première chose qu'on regarde », Grégoire Delacour, le voisin bricoleur de « Gilles de Demain j'arrête », Gilles le gardinier, ami d'enfance, ami d'école, sœur ou frère d'élection, toujours là, toujours fidèle et secourable. Et d'une manière générale, les gens gagnent à être connus. Les individus fermés, hostiles, agressifs sont les victimes d'un traumatisme d'enfance, ce sont des blessés de la vie en attente de réparation. Et les talents, charme, intelligence, compréhension, fantaisie, gaieté, courage, ne nous sont pas marchandés. On aimerait bien pouvoir en dire autant de nous-mêmes. L'écart avec les fictions que nous consommons sous forme de séries audiovisuelles et même avec le roman policier, particulièrement le polar dit de type scandinave, est à cet égard remarquable. Dans ces ouvrages, les structures psychiques et les relations entre personnes sont presque toujours bien plus sophistiquées, alors qu'il s'agit aussi de produits destinés à un large public. Et avec Stephen King ou Philip K. Dick, cet écart devient vertigineux. Même King, pour moi, c'est une œuvre. Gadig, c'est un des plus grands écrivains du siècle. Je ne suis pas certain. Je me tourne vers Alexandre. Je ne suis pas certain que le devoir d'empathie qui s'impose à la fiction contemporaine, à commencer par, comme tu le montres, par celle qui nous paraît la plus légitime, soit sans rapport avec l'affaiblissement de l'invention fictionnelle qui est en France un trait frappant de ces dernières années. Car dans la vie, par le moyen de l'exofiction, guillemets, ou du roman d'enquête, c'est bien le mal qu'on va chercher. Yvan Jablonka, par exemple, a fait un best-seller de Laetitia. Mais est-ce un exemple à suivre, cette renommée et cet argent tiré d'un malheur réel, d'un corps presque encore chaud? Pour aller plus loin, il faudrait s'intéresser aux réactions des lecteurs. Ces livres ont fait l'objet d'une couverture assez large dans la presse, mais cette couverture est prévisible jusque dans ces débats contradictoires comme celui que l'Express consacre au dernier Delacour. Je cite le titre de l'article « Ode inspirée ou pâle bluette ». Évidemment, il y a un journaliste qui dit « Ode inspirée » et l'autre qui dit « pâle bluette ». On connaît assez les positions de Libération, de Bibliops ou des Inrecuptibles ou du Matricule pour savoir qu'ils ne les prendront que par raillerie ou avec des pincettes sociologiques. Les vrais lecteurs sont ceux qui s'expriment sur les forums comme Babelio ou Sens Critique. Je me limiterai au premier, Babelio, qui est le plus fréquenté. Pour chacun des ouvrages que j'ai mentionnés, le site contient plusieurs centaines de critiques accompagnées de notations de 1 à 5 étoiles. Alors, je ne crois pas qu'il s'agisse forcément d'un échantillon représentatif des lecteurs. Par rapport au nombre d'exemplaires vendus, la proportion est en gros de 1 pour 1000, et il est probable que les opinions négatives sont surreprésentées. Mais c'est quand même un beau matériau, un matériau qu'on pourrait soumettre à une analyse systématique pour obtenir une cartographie du lectorat, c'est évidemment pas ce que je vais faire. Moi, mon regard est qualitatif. De ce point de vue-là, je vais trouver peu de surprises. Je vais voir ressortir, d'une part, la dimension largement partagée des critères de fiction et de diction, d'autre part, je vais constater la faible présence des jugements de valeur ontologique du type « ceci n'est pas de la littérature ». C'est très rarement, on lit très rarement des choses comme ça. Nous sommes en effet dans une catégorie de livres dont on n'attend pas que ce soit de la littérature. Mais on en veut pour son argent, c'est-à-dire qu'on veut à la fois le divertissement romanesque et la satisfaction du feel-good promis. C'est pourquoi les critiques les plus insistantes portent sur la construction de l'intrigue, la crédibilité des personnages et leur capacité à attirer la sympathie, et le minimum d'originalité, ça c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant, le minimum d'originalité requis d'une œuvre globalement conforme aux opinions admises, mais qui ne doit pas les reproduire telles quelles. Dans l'ensemble, alors c'est là aussi une distinction que je propose, dans l'ensemble, les lecteurs qui se montrent critiques ont lu le texte. Ils ont lu le texte. Les clichés sont épinglés par des citations commentées. Le livre est comparé à d'autres du même auteur ou du même genre, parfois aux possibilités du genre en tant que tel. Ces lecteurs sont aussi attentifs au livre comme objet, particulièrement au titre, à la titraille, à la couverture, au péritexte, etc. En revanche, les lecteurs favorables ont plutôt lu l'histoire. Ils ont fait la comparaison de leur vie avec celle des personnages, ils ont éprouvé des émotions dont le livre n'est que le point de départ. Il en résulte souvent l'impression que les uns et les autres ont lu des livres différents. Alors voilà, je vais vous donner des exemples. Je commence par « Je l'aimais » d'Anna Gavalda, donc lecteur A. Alors, j'ai pas de PowerPoint, mais j'ai paresseux. Hein. Lecteur A. « Cette histoire me ressemble. Ou plutôt, aurait pu me ressembler si je n'avais pas pris une route différente à un carrefour de ma vie. Ce livre est un trésor avec des femmes et des hommes qui ne sont pas parfaits, loin de là, qui essayent de se construire une vie qui tient un peu la route avec des souffrances d'enfance qui sont force ou désespoir et le souvenir commun. J'ai aimé être le témoin privilégié de ces instants de confidence et de grâce. Ils sont pour moi un appel et un encouragement à vivre dans ma vie quotidienne, hein, des échanges vrais et hors du temps, des relations nourrissantes et bienfaisantes. Lecteur B. Ce livre manque totalement de profondeur et de réflexion. Il suinte juste de bons sentiments, de petites citations ridicules sur le bonheur, l'amour ou la vie. Et voici, alors avec un palmarès inverse, les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan, hein, donc avec une longue citation critique et une courte citation positive. Lecteur A. J'ai eu du mal avec l'accumulation de poncifs, de lieux communs et de clichés. Dans le style comme dans les personnages, on a évidemment la cascade de cheveux magnifiques, le regard noir et le baiser au coin des lèvres, répété plusieurs fois, tant qu'à faire, avec l'inévitable meilleur ami gay et la salope, oui-oui, qui parle toute seule pour qu'on puisse connaître ses mauvaises intentions, oui-oui bis. Mais le pompon, c'est qu'on essaye de nous faire croire qu'il s'agit de littérature, c'est un des rares cas, on est dit, hein. Il n'y a pas imposture sur la question littéraire, d'un roman sur le deuil, alors qu'il s'agit d'une romance bas de gamme. Attention, je n'ai rien contre une bonne romance qui fait du bien au moral et accompagne un après-midi ensoleillé sur la plage ou à Cerisy. Il faut juste qu'elle soit réussie, là non, et qu'elle s'assume comme romance encore ratée. Pourtant, tous les signaux étaient là, elle continue. Un titre de merde, on peut boire du café et lire sans être heureux, et l'inverse est vrai aussi. Mon Dieu, cette mode des titres à rallonge faussement poétique. Une couverture en noir et blanc pour rappeler celle de « Rien ne s'oppose à la nuit », bien vu, hein, de Delphine de Vigan, succès critique et commercial, plagiat parfait, tout y est, une femme cigarette à la main. Une quatrième couverture qui commence bien, mais seulement les trois premières lignes, elle cite la quatrième. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception de son cœur qui continue de battre. Obstinément, douloureusement, inutilement, égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence, ça c'est le roman, et le lecteur dit « Ah, pitié !» hein, avec cette expression. Alors, lecteur B, coup de cœur, majuscule, j'ai adoré, je l'ai entamé en ne sachant pas trop ce que ça allait donner, le deuil tout ça, que ce soit trop morose, mais en fait pas du tout, j'ai vécu l'histoire comme si j'étais Diane, les émotions sont très bien retranscrites, ça se lit vite et bien, en bref, génial, je vais continuer à lire cet auteur. À l'exemple de cette dernière contribution, les appréciations 5 étoiles sont souvent plus courtes et moins argumentées que les éreintements. Il ne faut pas oublier que les intervenants s'exposent, même sous pseudonyme, sur ce forum, et qu'il peut sembler plus valorisant de traiter un livre de, je cite, « vieil harlequin recyclé par un bon service marketing » que de déclarer qu'on a pleuré toutes les larmes de son corps. Cependant, cela aussi peut être une posture. Certaines critiques sont des lettres d'amour au livre. On peut les juger naïves, et pourtant, comment ne pas voir que le livre a touché, en tout cas qu'il a séduit, parce qu'il a tenu à certaines personnes exactement le discours qu'elles espéraient entendre. Nous ne connaissons pas les lettres adressées à l'auteur, il est certain qu'il en reçoit. Il est possible que certaines contiennent des avances sentimentales, comme celle de Modeste Mignon à Canalis, dans le roman de Balzac, ou des demandes en mariage, comme celle d'André Acquebeau à Costals, chez Monterland. Ce trafic de sentiments est inhérent à la création romanesque. Il en est le dessous, peut-être la raison la plus profonde. Moi-même, je me plais à copier ce poème inspiré à Ambage, au pluriel, c'est un pseudonyme, un pseudo très littéraire, plutôt littéraire, par la lecture de « Danser au bord de l'abîme », donc le dernier livre de Grégoire de la Cour. Elle cite « Emma, Emma ». Incroyable ! Il est des mots qui ne s'oublient pas, que l'on relit, que l'on lit, relit et relit et relit « ité » et relit « e », « Emma ». Était-ce déjà dans une vie antérieure ? Sinon, pourquoi ce confort dans l'heure, ce visage inconnu comme si familier aux yeux enjoués sous un dais violet ? Ce regard qui sonde sans préjugés, l'autre qui s'abandonne, apprivoisé, bientôt les mots trop impuissants, laissent parler leurs baisers brûlants. Quand j'ai lu ce roman, j'ai eu un coup d'amour, un coup au cœur. Merci pour ce cadeau inoubliable et merveilleux. Cet auteur, Grégoire de la Cour, mérite sans doute une place à part. Dans la famille des meilleurs vendeurs, c'est le professeur de français. L'héroïne de son dernier livre, cette Emma sans Bovary, s'échafaude d'une vie avec ses lectures, hein, La chèvre de Monsieur Seguin, Colette Claudine, Edith Wharton, Louise de Villemorin. En même temps, elle se passe en boucle mentale les choses de la vie de Claude Sautet. C'est la culture de Delacour, et cette culture réserve des surprises. Dans la première chose qu'on regarde, le roman où un apprenti garagiste à l'enfance perturbée voit frapper à sa porte le sosie de Scarlett Johansson, la première chose qu'on regarde, c'est les seins, bien sûr. Dans ce livre, des passages du recueil de Jean Follin existaient, viennent commenter et parfois interpréter les événements de la vie. Le roman y gagne, évidemment, mais le poème n'y perd pas. Et ce n'est pas parce qu'il se détache comme un diamant de sa gangue. Au contraire, les deux semblent faits de la même substance, même si le poème est mieux fait. En dépit de la médiocrité de l'intrigue, dans ce roman, le dénouement est vraiment stupide. Quelque chose passe de la vie ordinaire entre les mots du poème et l'histoire racontée. Bien sûr, les textes de Follin sont si justes qu'ils résistent à tout, mais je ne crois pas qu'il en soit fait mauvais usage. Je n'y vois pas une supercherie. Peut-être ce genre de roman est-il aussi, comme pour le garagiste, un moyen d'accéder à la littérature. Voilà, je reviens à la littérature. J'ai pris dans cette intervention, j'ai pris comme exemple caractéristique « Je l'aimais » ou « Demain j'arrête », alors que les exemples que prend Alexandre Geffen sont « D'autres vies que la mienne » de Carrère ou « Réparer les vivants » de Maïlis de Kerencal. Ce sont des ouvrages plus élaborés du point de vue de la fiction et de la diction. Mais il faut bien reconnaître, comme Alexandre le fait en conclusion, je le cite, que rien n'interdit, tout au contraire, d'étendre à la fiction non littéraire certaines fonctions réparatrices abstraites, comme la capacité à corriger et à résoudre des clivages normatifs dépassés ou dangereux. Mais dans ces conditions, qu'est-ce qui différencie la fiction non littéraire d'une fiction littéraire qui a accompli son thérapeutique turn? Impossible de répondre que c'est la complexité ni le style, car ces critères de complexité et de style définissaient la littérature dans son régime esthétique, supposé révolu ou en voie de disparition. Est-ce qu'on peut soutenir que la thérapie est plus efficace quand elle est portée par des bons livres que par des livres médiocres? À vrai dire, on n'en sait rien. Je cite Geffen. Nous ne savons pas grand-chose de l'effectivité réelle, tant soit-elle quantifiable, de la littérature et de sa redéfinition contemporaine comme école d'empathie. Nous ne disposons d'aucun indice de corrélation entre la qualité littéraire et ses effets éventuels. Nous ignorons sur quoi cette vertu repose et si elle n'est pas elle-même une fable littéraire, quelque chose comme la vertu dormitive de l'opium dans Le médecin malgré lui. En revanche, nous connaissons les bénéficiaires de cette opération, je cite encore Alexandre Geffen, faire de la théorie du récit une charnière centrale entre la théorie de l'action et la théorie éthique conduit à une formidable revalorisation de notre travail de linguiste, d'historien, de stylisticien, de narratologue et à une prolongation inespérée du tournant linguistique. Il est difficile d'être plus clair. Personnellement, si je peux conclure, personnellement, je ne me sens pas davantage enclin à aimer la littérature comme disruption que la littérature comme médiation. Ces schémas binaires se fatiguent et je ne suis pas très tenté de troquer un mythe contre un autre. Les auteurs que j'aime, surtout les plus lucides, sont souvent amers et mal pensants. Ils sont peu nombreux, ils sont presque toujours environnés d'une foule de bien-pensants qui leur font la leçon. Le sort de Baudelaire a été particulièrement tragique, à la fois tragique et comique à cet égard. Je pense souvent à Baudelaire, sa position était moins confortable que celle d'Emmanuel Carrère. Ne parlons pas de celle de Kafka. Mais enfin, bon, enfin, quand on est devant un vraiment bon livre, hein, qu'il s'agisse des élégies de Douino ou des récits de la Colima, on ne se demande pas s'il est utile, et pas davantage s'il est beau. On sait seulement qu'il est là et qu'il est entré dans notre vie. Je vous remercie.